Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Eh bien, bonjour, vous êtes dans l'actualité des luttes en ce jour du 26 novembre 2024. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Victoire de la CGT chômeurs. Parce que bien trop rarement, on parle des chômeurs. Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux. Donc avec toi aujourd'hui, on va parler un petit peu, faire un peu un état des lieux évidemment, mais aussi parler de cette énième réforme de l'assurance chômage et essayer d'en dégager un peu les causes et la logique. Et puis évidemment parler dans un dernier moment de des mobilisations que vous essayez de mettre en place et des permanences qui existent dans le 20e, si je ne m'abuse,
18e.
18, bon, c'est juste à côté, puis tout le monde peut y aller, hein, y a pas de... Voilà, bonjour Victoire.
Bonjour.
Donc pour commencer, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'on va essayer de faire un petit état des lieux, parce qu'à chaque fois on a des chiffres, on a du mal à comprendre un petit peu ce qu'ils recouvrent. Combien de chômeurs en France ?
Alors, combien de chômeurs en France ? C'est difficile de déterminer avec précision combien il y a de chômeurs en France. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup plus de chômeurs que ce que prétend le gouvernement. Pour une raison très simple, c'est que les calculs du taux de chômage qui sont faits par le gouvernement, enfin qui sont publiés par France Travail, sont les chiffres issus du Bureau international du travail, qui a une définition extrêmement restrictive de ce qu'est un chômeur. C'est-à-dire un chômeur est quelqu'un qui n'a pas travaillé du tout pendant le mois écoulé, pas même une heure, et qui est disponible pour travailler dans les 15 jours qui viennent. Or, énormément en fait de personnes ne, enfin, rentrent pas dans ce cadre-là, parce qu'il y a énormément de personnes qui travaillent en réalité, mais qui ne travaillent pas suffisamment pour pouvoir vivre dignement de leur travail. Et il y a aussi beaucoup de gens qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas disponibles dans les 15 jours qui suivent. Je vais prendre par exemple les personnes en situation de handicap, les personnes qui ont des freins, ce qu'ils appellent des freins à l'emploi, des problèmes psychiques, des problèmes familiaux, tout ça, ce sont des personnes qui ne sont pas prises en compte dans les chiffres du chômage. Donc pour pouvoir calculer le chiffre du chômage, il faut oublier les 7,2% dont ne cesse de nous parler le gouvernement et qui baissent de temps en temps, qui sont uniquement donc les personnes qui correspondent à la définition que je viens de vous donner et qui n'incluent pas tous les travailleurs précaires, tous les gens qui ne sont pas en situation de travailler, tous les gens qui sont au RSA et qui pour une raison ou pour une autre ne sont pas en situation de travailler, les personnes qui sont en chômage longue durée, voilà. et que donc du coup les 2,3 millions qui correspondent à peu près aux 7,2% dont nous parle le gouvernement, en fait il faut les multiplier quasiment par 4, puisque en fait en réalité rien que si on voit les catégories A inscrites à France Travail, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas du tout travaillé dans le mois, c'est déjà plus de 3 millions de personnes. Si on prend les catégories B et C, c'est-à-dire les gens qui travaillent à temps partiel, très souvent contraints, donc soit à temps partiel sur le mois complet, soit qui ont un emploi discontinu, ça fait 3 millions de personnes de plus, plus 1,5 million de personnes, à peu près de personnes qui sont au RSA, non inscrites à France Travail, et ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire tous ces gens qui sortent des radars, qui travaillent, mais qui ne travaillent pas à plein temps, et en tout cas qui ne peuvent pas vivre dignement de leur travail avec... avec un salaire qui est au-dessus du seuil de pauvreté.
Alors, si on additionne tout ça, effectivement, ça commence à faire beaucoup. Hein, et ça représente quoi, plus de 10% de la population ?
C'est approximativement 9 millions de personnes. Donc c'est difficile de quantifier exactement, mais entre 8 et 10 millions de personnes. Donc si on le rapporte à la population active, ça fait à peu près 25% de la population active. De personnes qui soit ne peuvent pas vivre du tout de leur travail, soit ne peuvent pas vivre... seulement de leur travail, uniquement de leur travail.
Mais je pensais que c'était important de revenir là-dessus parce que quand on voit la gravité des chiffres, hein, l'énormité des chiffres et le peu de place finalement qui sont données aux chômeurs pour parler, expliquer ou même de pouvoir discuter de cette histoire de taux de chômage dans un pays quand même dit riche, hein, riche en tous les cas. C'est intéressant. On parle très très peu en fait des chômeurs, sauf en les désignant comme des feignants, des feignasses, des cas sociaux, etc. Alors que... cette réalité, elle est la résultante d'une situation économique, politique, sociale. Et on voit que, par exemple, depuis le début de 2024, il y a 47 000 emplois qui ont été supprimés. Donc c'est important aussi d'essayer de comprendre pourquoi il y a autant de chômage en France.
Alors, pourquoi il y a autant de chômage en France ? C'est une très vaste question. Le chômage de masse, on estime qu'en France, il apparaît dans les années 70-80, donc après les dénommées 30 Glorieuses la crise des années 70. On en a beaucoup parlé dans les années 70-80, la question du chômage de masse, parce que bon, ils savaient très bien que ça allait s'amplifier grandement, a fait l'objet de beaucoup de discussions. Et c'est vrai que depuis une trentaine d'années... c'est un sujet qui est quand même régulièrement mis sous le tapis, qui est camouflé pour une raison très simple, c'est que nous vivons dans un système économique néolibéral qui provoque du chômage. Quand vous vivez dans un système économique où il y a une libéralisation des échanges à l'échelle internationale, ça favorise le dumping social, les délocalisations. L'Union européenne a son rôle à jouer dedans. Hein. Par ailleurs, je veux dire, quand ils ont signé le traité de Maastricht et même avant, nos gouvernants de l'époque avaient parfaitement conscience que ça allait faire exploser le taux de chômage. Quand vous vivez dans un pays où l'objectif, enfin dans un pays, dans un système économique où l'objectif c'est de faire travailler le plus longtemps possible les travailleurs avec les salaires les plus bas possibles, donc avec un nombre d'heures travaillées qui est largement supérieur à ce dont ces personnes-là ont besoin pour pouvoir reproduire leur force de travail. Donc si vous voulez, avec énormément d'argent qui est dérobé par le patronat à ces travailleurs-là qui gagnent beaucoup plus d'argent que le salaire qui leur verse, et que l'objectif est d'allonger le temps de travail et d'augmenter la productivité des travailleurs, inévitablement de l'autre côté, ça génère une partie des travailleurs qui sont exclus du marché du travail. C'est inévitable. Le gouvernement nous parle depuis quelques années de la baisse du taux de chômage, ce qui a justifié ce dont on parlera après, c'est-à-dire les différentes réformes de casse de l'assurance chômage qui ont lieu depuis plusieurs années. En réalité, le taux de chômage, il n'a jamais baissé. Simplement que le type d'emplois qui sont proposés sont plus les mêmes qu'avant. Aujourd'hui, quand même, la précarité devient la norme. Et qu'aujourd'hui, on va vous dire, tu n'es plus au chômage si tu as une mission d'intérim de 2 semaines, tu sors des chiffres du chômage. Donc, les baisses du chômage dont s'est glorifié Emmanuel Macron en disant notre politique de libéralisation du marché du travail avec la loi travail, les ordonnances Macron et compagnie, a porté ses fruits, puisque, et de défiscalisation aussi, enfin de désocialisation du travail, c'est-à-dire les exonérations de cotisations sociales, a permis d'enrayer le chômage de masse. En fait, c'est largement faux. Par ailleurs, là, on voit quand même très bien que depuis 6 mois, voire 1 an, la tendance s'inverse De manière flagrante, puisque tu parlais de 46 000 emplois qui vont te supprimer, sauf que, en fait, c'est plus de 150 000 emplois qui vont être supprimés en 2024-2025. Et ça, c'est que les emplois dont on est sûr aujourd'hui, qui sont annoncés, qui vont être supprimés. Mais il faut rajouter à ça la grosse crise du bâtiment qui est en cours et qui va générer des faillites d'entreprises. Donc, si vous voulez, c'est, je veux dire, énormément d'intérimaires qui vont perdre du jour au lendemain leur travail, y compris des gens en CDI. Là, aujourd'hui, quand même, les promesses d'austérité qui sont en train d'être discutés au Parlement, enfin au Sénat, là actuellement, notamment dans la fonction publique, vont générer aussi des suppressions de postes massives. Je veux dire, ça a déjà commencé hein, dans la fonction publique et les opérateurs publics, puisque là, par exemple, on prend France Travail, qui n'est pas vraiment la fonction publique, mais qui reste quand même un service public. Aujourd'hui, ils ne remplacent pas les CDD. Donc, ils ont massivement, les services publics ont massivement précarisé en fait, leur masse salariale, en n'embauchant plus en statut de fonctionnaire, mais en embauchant des précaires, donc des CDD, voire des vacataires, et qu'aujourd'hui, ces postes-là, on peut imaginer qu'avec les 5 milliards d'économies qui sont demandées pour les collectivités territoriales et je ne sais plus combien de milliards pour la fonction publique, les premiers qui vont en pâtir, c'est bien les contractuels et les précaires de la fonction publique, dont les postes ne vont pas être renouvelés. Donc là, c'est difficile de quantifier combien de postes ne vont pas être renouvelés, mais ça va représenter énormément de postes. Et après, il y a cette vague de délocalisation dans toute l'industrie, je veux dire, dans l'industrie automobile, avec la suppression de postes, la suppression de 2000 postes chez Michelin, de 500 postes avant Corex, la fermeture de plateformes de plateformes chimiques un peu partout en France, chez Auchan dans la grande distribution où ils suppriment des milliers de postes. Là, on apprend que ArcelorMittal va aussi supprimer des postes, que chez Carrefour ils vont supprimer des postes. Enfin, ça tombe tous les jours. On a des annonces de fermeture d'entreprises qui, pour certaines, on justifie ça. Enfin, ils justifient en fait finalement les fermetures d'entreprises. Pour certaines, par une conjoncture économique dégradée, donc des faillites d'entreprises. Il n'y a jamais eu autant de faillites d'entreprises depuis plus de 40 ans. Hein. Même en 2008, il n'y a pas eu autant de défaillances d'entreprises qu'actuellement. Je crois que c'est à peu près 150 000 défaillances d'entreprises en 2024, ce qui est un chiffre énorme. Mais c'est surtout des multinationales qui, aujourd'hui, pour pouvoir en fait, finalement gagner encore plus d'argent, c'est-à-dire augmenter leurs profits, parce que, je veux dire, ils gagnent, il y a du profit. Hein. Michelin génère du profit, verse des dividendes énormes à ses actionnaires. Vancorex également, Safran également, Carrefour, Auchan, enfin, je veux dire, c'est pas du tout des entreprises qui se portent mal, mais c'est des entreprises qui aujourd'hui veulent générer encore plus de profits, et donc vont délocaliser, comme le fait Michelin en délocalisant ses usines de Vannes et de Cholet, en Bulgarie. Merci l'Union Européenne, qui permet justement aujourd'hui d'organiser au sein même de l'Union Européenne, je veux dire, un énorme dumping social, parce que évidemment que les salaires sont pas les mêmes en Bulgarie qu'en France. Les cotisations sociales ne sont pas les mêmes en Bulgarie qu'en France, mais le niveau de vie n'est pas le même aussi. Et que c'est le résultat de luttes historiques des travailleurs qui ont gagné des cotisations sociales, qui ont gagné la sécurité sociale, et qu'aujourd'hui, avec un discours de « nous ne sommes plus compétitifs », en fait, je veux dire, est en train d'organiser une casse sociale monstrueuse dans notre pays. Et ça ne va pas s'arrêter là.
Ouais, et pas seulement, hein, d'ailleurs, parce que en fait, toute cette réalité, elle s'étend sur l'ensemble de la planète. Hein, parce que
bien sûr,
on va délocaliser dans les pays de l'Est. Au moment où ils seront moins compétitifs, on va aller au Maghreb. Après, une fois qu'on va aller là,
mais c'est déjà
on va aller
cas.
Là.
Enfin, et c'est le cas, déjà ouais. Le cas.
Et donc, du coup, ça crée de la misère partout et
si vous voulez, ça crée de la misère ici parce que ça crée du chômage ici et c'est une surexploitation là-bas. Des travailleurs là-bas, puisque en fait finalement je veux dire, dans les entreprises, vous allez délocaliser je sais pas, en Moldavie, je veux dire, les conditions de travail sont pas du tout les mêmes, les conditions de salaire sont pas du tout les mêmes, il y a pas la même la même protection sociale, et donc finalement il s'agit bien d'une surexploitation, puisqu'en fait n'oublions pas quand même les profits qui sont générés par les entreprises, c'est nous exclusivement, ce sont exclusivement les travailleurs qui le produisent. Et encore une fois, un travailleur français, ne fait pas perdre de l'argent à une entreprise. Au contraire, il lui fait gagner de l'argent. Simplement, l'entreprise veut gagner encore plus d'argent. Et donc, du coup, veut payer moins cher.
Et d'ailleurs, c'est ce à quoi on assiste, tu l'as dit un peu trop rapidement, mais c'est sûr que là, on voit les bénéfices des entreprises, les actionnaires qui se font de plus en plus de fric, mais en très très peu de temps, ça a été multiplié par deux ou par trois. Donc d'un côté, on voit une catégorie de la population extrêmement peu nombreuse qui gagne des sommes faramineuses, et une grande masse de gens, c'est la résultante, qui n'arrivent plus à vivre décemment, à manger, à se loger et à vivre. Donc le ruissellement, il n'a pas lieu, hein, c'est clair.
Oui, mais ça, c'est une théorie bidon. Enfin, ça, c'est bien pour faire semblant. C'est pour justifier le discours selon lequel il faut être gentil avec les entreprises parce que c'est les entreprises
qui créent de l'emploi.
Qui créent de l'emploi et qui nous font vivre.
Et on ne le voit pas. D'ailleurs, on ne voit pas d'abord qui crée de l'emploi,
non,
puisque comme tu viens de l'expliquer, il délocalise. Et puis, on n'a pas abordé aussi la question de la mécanisation et de la numérisation qui vont aussi réduire les emplois.
Bien sûr, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans un certain nombre de secteurs va en effet générer des suppressions de postes importantes et qui va toucher pour le coup finalement une catégorie de la population qui elle
qui
n'a
pas
tellement n'a pas tellement l'habitude des grands plans sociaux et qui sont plutôt des cadres, des ingénieurs, des techniciens, mais qui sont pas, je veux dire, les catégories qui ont plus l'habitude, si j'ose dire, malheureusement, à ce que leur poste soit extrêmement précarisé et voire soit délocalisé, donc tout simplement supprimé.
Ok, on va faire une petite pause et puis on va revenir après en essayant peut-être de détailler quelques petits points que tu viens de nous dire rapidement.
Avec du goudron et des plumes, posons vos doigts entre le marteau et l'enclume. Vous ignorez les lois et vous la faites à l'envers. Vous titillez nos cordes, vous ravivez la misère. Miséricorde, c'est digne. Et repart au combat pour 182 familles à qui vous refusez le débat. Vous leur avez appris la haine et la colère pour contenter, messieurs, mesdames, vos actionnaires. On repart au combat à l'assaut du mammouth tant qu'il ne nous tue pas. On repart au combat. Ils se prennent pour Steve Jobs, on ne veut pas de Pôle emploi. On repart au combat, à l'assaut du mammouth tant qu'il ne nous tue pas. On repart au combat, on repart au combat.
Allez leur dire à tous ces gamins concernés qu'il n'y a plus de salaire, qu'il va falloir se priver. Plus de fêtes d'anniversaire, d'études et de vacances. Sans pour autant, messieurs, que ça altère votre conscience. Bande de bâtards, crevures et j'en passe. La roue tourne un jour, vous serez dans l'impasse. Vous demanderez un petit peu plus d'humanité, on vous la fera à l'envers, sans négocier.
On repart au combat, à l'assaut du mammouth tant qu'il ne nous tue pas. On repart au combat. Ils se battent pour Steve Jobs, on veut pas de Pôle emploi. On repart au combat, à l'assaut du mammouth tant qu'il ne nous tue pas. On repart au combat, on repart au combat.
La négociation.
On charge les femmes, enfants, tous les souvenirs dans un camion.
Le lit du routeur en poche comme un petit air de vacances.
L'accent russe pour faire rire les mioches et provoquer un peu la chance.
Ils ont fait les choix difficiles, peser le pour sans être con.
Pour eux, chômeurs rime peut-être avec honte.
Le froid qui glace le sourire,
gerce les lèvres,
les souvenirs.
Ce sera un voyage long cours,
un ticket aller sans retour.
Et pour eux, on repart au combat. À l'assaut du mammouth tant qu'il ne nous tue pas. On repart au combat. Ils se prennent pour Steve Jobs, on ne veut pas de Pôle emploi. On repart au combat, à l'assaut du mammouth tant qu'il ne nous tue pas. On repart au combat, on repart au combat. On repart au combat, à l'assaut du mammouth tant qu'il ne nous tue pas. On repart au combat, ils se prennent pour Steve Jobs, on ne veut pas de Pôle emploi.
Toujours sur l'actualité des luttes, et on est toujours avec Victoire de la CGT Chômeurs pour parler à la fois, bon bah là on vient de faire un petit peu un état des lieux, hein, très très rapide, mais bon voilà, qui explique aussi le nombre impressionnant de chômeurs et qui va encore s'accentuer dans les années à venir. Et j'avais juste envie de prendre juste un petit peu de temps pour voir, essayer de comprendre. Comment se fait-il ? Bon, déjà, il y a moins de cotisants, forcément, puisqu'il y a moins de travailleurs. Mais il y a aussi, de la part de l'État, une volonté de défiscaliser le patronat. C'est-à-dire que le patronat doit payer, comme nous salariés, quand on travaille, une part de notre salaire qui est pour l'ensemble, pour la prise en charge de l'éducation, de la santé, de la sécurité sociale et de l'UNEDIC et compagnie. Et cette part, elle est de plus en plus faible pour les patrons, ce qui explique aussi peut-être le manque qui existe dans les caisses.
Alors, j'ai juste une précision. Le patronat ne paye pas. Le patronat verse un salaire. Et que toute cette part-là, alors on a distingué de manière artificielle cotisation salariale, cotisation patronale, ça reste de la cotisation sociale. Et la cotisation sociale, c'est du salaire.
Ouais. Donc, c'est une part du salaire, en fait. Ouais, voilà, c'est le patronat qui reverse une part de ton salaire.
C'est ça, mais
c'est ton salaire. C'est ton salaire quand même.
Voilà, donc c'est pas le patronat qui paye les cotisations
sociales,
c'est pas
de
son
le
argent.
Dire,
c'est ce que produit le travailleur. Après, oui, on parlait tout à l'heure des logiques des gouvernements successifs pour enrayer le taux de chômage. Leur logique, elle est unilatérale, elle a toujours été unilatérale depuis plus de 20 ans, qui est de casser la sécurité sociale. C'est-à-dire de faire des mesures d'exonération de cotisations sociales de plus en plus massives. Aujourd'hui, pratiquement tous les salaires en dessous de 1,6%, de 6 SMIC, sont quasiment sans cotisations sociales. Donc évidemment que ça a des impacts importants sur les caisses de la sécurité sociale et sur les caisses de l'UNEDIC. Donc,
mais ça valorise les profits du patron.
Si vous voulez, évidemment, si tu veux, la part que le patronat ne te verse pas sous forme de salaire socialisé, il le garde dans sa poche.
Carrément.
Donc oui, les exonérations de cotisations sociales sont un cadeau fait aux entreprises. C'est une baisse de salaire déguisée. Toi, tu t'en rends pas compte parce que c'est pas net dans ta poche, tu te rends pas compte. Mais en fait, ce sont des baisses de salaire déguisées qu'on paye avec un certain retard, qu'on paye aujourd'hui. C'est-à-dire en nous disant, il y a plus d'argent dans les caisses, donc... En fait, il faut, dérembourser certains médicaments, ce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place. De ne plus rembourser intégralement les consultations médicales, de casser l'assurance chômage pour pouvoir rembourser la dette de l'UNEDIC. Évidemment, ça, on le paye indirectement, puisque ce salaire socialisé sert aujourd'hui à assurer nos besoins primaires collectifs, sont la santé, l'éducation, la protection contre le chômage, la protection contre... la maladie, la protection contre la vieillesse aussi, le droit de pouvoir à un moment donné arrêter de travailler, ça rentre aussi, les retraites aussi font partie intégrante de la sécurité sociale. À côté de ça,
on peut dire que c'est un braquage.
C'est un braquage organisé entre les gouvernements et le patronat, bien évidemment. Le gouvernement, il est au service aujourd'hui du patronat. Quand on dit Macron, c'est le président des riches, c'est vrai. Par ailleurs, Hollande était le président des riches. Sarkozy était le président des riches. Macron n'est pas le premier à faire ça. En gros, si vous voulez, la logique aujourd'hui, c'est pour lutter contre le chômage de masse, il faut baisser le prix de la force de travail. Donc, il s'y attelle. Et les exonérations de cotisations sociales sont un des moyens pour eux de le faire. Et ça représente 100 milliards d'euros de pertes annuelles pour les caisses de la sécurité sociale, les baisses de cotisations, les exonérations de cotisations sociales. Et ils continuent à le faire. Là, il y avait un projet, alors je ne sais pas vraiment où ils en sont, parce que pour le moment, ça se discute, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais il y avait un projet d'augmenter les exonérations de cotisations sociales sur les salaires supérieurs à 1,6 SMIC. Sous un discours qui est un discours extrêmement vicieux, puisqu'il s'agit de dire le SMIC ne suffit pas pour vivre, mais les exonérations qu'on a octroyées incitent le patronat à n'embaucher que des gens au SMIC. Donc pour pouvoir les inciter à augmenter les salaires, il faut de facto baisser les salaires, puisque encore une fois, des exonérations de cotisations sociales sont des baisses de salaire effectives qu'on paye avec un certain retard.
Mais carrément, puisque c'est vrai que le fait de devoir payer des mutuelles, c'est aussi de l'argent que toi tu dois du coup payer, les médicaments, que le fait d'être au RSA ou parce que tu peux pas être à la retraite ou etc. C'est des choses que tu payes à un moment ou à un autre, des choses qui normalement auraient dû être payées tout au long de ta vie par le patronat qui s'est mis cet argent dans la fouille, hein, et puis qui...
Bah, que tu payes tout au long de ta vie, oui, parce que enfin, l'exemple des mutuelles est un très bon exemple. Mais ça, tu vas le payer aussi par la fermeture d'hôpitaux. Donc du coup, par l'obligation d'aller dans une clinique privée si tu veux être soigné assez rapidement. Tu le payes aussi par des réformes des retraites, par exemple. Typiquement, enfin, le discours était les régimes de retraite n'est pas à l'équilibre, donc il faut faire une réforme des retraites et bim, tu te prends 2 ans dans la gueule. Tu le payes par une baisse de la protection contre la perte de l'emploi. Tu le payes par plein de moyens différents. De toute façon, inévitablement, tu le payes. Je veux dire, c'est de l'argent qui est dérobé avec la complicité du gouvernement qui l'organise. Le gouvernement, aujourd'hui, son rôle est d'organiser précisément ça. Sans parler de toutes les aides aux entreprises qui ont été apportées. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on paye la crise Covid. Mais ce qu'on paye, c'est pas l'activité partielle. L'activité partielle, ça a bénéficié aux entreprises pour ne pas perdre leurs salariés, pour ne pas perdre des savoir-faire. Mais je veux dire, aujourd'hui, ceux qui ont bénéficié des aides pendant la crise Covid sont essentiellement les entreprises. Et aujourd'hui, enfin, ça vous prenez une entreprise comme Michelin, enfin, a touché des milliards de la part de l'État pour garder l'emploi, pour garder l'activité ici, et qui aujourd'hui vous dit mais moi j'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai rien à foutre. Ça me coûte moins cher ailleurs, donc j'y vais ailleurs. Et je prétexte la crise énergétique, que ça coûte plus cher, mais enfin que l'énergie coûte plus cher, ce qui est un fait. Après, il faudrait s'interroger de pourquoi l'énergie coûte plus cher. Enfin, le marché européen de l'énergie et compagnie, enfin, qui est aussi un truc assez scandaleux quand même. Enfin, il faut quand même, je veux dire, c'est qu'aujourd'hui nous on paye le prix de l'énergie la production la plus chère en Europe. Ça veut dire que si, enfin bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objet aujourd'hui.
On a déjà fait l'émission là-dessus.
Mais par ailleurs, quand bien même le prix de l'énergie aurait augmenté, le patronat et les actionnaires continuent d'engranger des profits et de plus en plus de profits. Donc en fait, en réalité, ils nous font payer à nous l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz. Encore, c'est toujours, enfin, je veux dire, la logique de ce gouvernement, de manière plus transparente encore que les précédents, c'est vraiment aujourd'hui, on va prendre dans la poche des travailleurs pour les verser dans la poche des actionnaires. Ça, sur tous les sujets.
Et d'ailleurs, bon, c'est ce qu'on est en train de se dire, mais presque pas à la limite, ça arrange, on va dire, le patronat aujourd'hui qui ait beaucoup de chômeurs, parce que ça leur permet de faire baisser le prix du travail. Donc ils s'en foutent en fait qu'on soit 9, 10 millions, etc. Parce qu'au contraire, même, ils peuvent imposer du coup des conditions de travail dégueulasses, des salaires dégueulasses, parce qu'on est 50 à attendre à la porte derrière pour pouvoir survivre.
Bah, ça, c'est un mécanisme, du patronat. Ça a été identifié depuis 2 siècles. On sait très
c'est
bien
eux
que
qui fabriquent
je veux dire, l'armée industrielle de réserve, non seulement c'est eux qui le fabriquent, puisque finalement c'est le résultat même du système économique qui exclut une partie des gens de la production et de fait de pouvoir travailler, la production des besoins sociaux, des biens dont on a besoin pour vivre, la nourriture et compagnie. Mais en plus, il en profite évidemment parce qu'il l'instrumentalise pour imposer des conditions de travail de plus en plus dégradées, des salaires de plus en plus dégradés. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Là, toutes les attaques qu'il y a depuis une dizaine d'années, mais essentiellement quand même depuis 2019, où il y a eu un tournant sur les attaques contre les chômeurs, où on a fait toute une propagande en disant maintenant, on va remettre toute cette bande de feignasses au travail. Quand même, il y a des métiers en tension, il y a des postes qui ne sont pas pourvus. En réalité, le seul et unique objectif de ces cases des droits des chômeurs, qu'on va peut-être détailler un petit peu plus par la suite si tu le souhaites, c'est véritablement de contraindre les travailleurs à accepter des conditions de travail dégradées. Et quand on parle de conditions de travail dégradées, c'est la mission d'intérim sans protection de sécurité, payer une misère 15 jours à 300 km de chez toi, c'est d'aller travailler dans un entrepôt logistique Amazon pour gagner le SMIC en tant que précaire, c'est d'accepter d'être vacataire dans une bibliothèque publique plutôt que d'avoir un poste de titulaire et finalement qu'on puisse faire absolument ce qu'on veut de toi, c'est les aides à domicile qui est un très beau métier mais qui aujourd'hui sont payées une misère pour des amplitudes horaires, elles travaillent sur 10 heures dans la journée mais en fait elles travaillent que 6 heures parce qu'elles sont pas payées entre les trajets et que du coup elles finissent à 900 balles par mois alors qu'en fait elles travaillent toute la journée et qu'on cherche aujourd'hui à imposer de manière massive aux privés d'emploi à France Travail, c'est-à-dire qu'on leur dit va faire aide à domicile, il y a plein de besoins. Et encore une fois, c'est un beau métier, mais c'est un métier qui est complètement dégradé et qui est extrêmement mal payé. Et qui, du coup, il faudrait une augmentation drastique des salaires dans ce secteur-là. Et là, les gens auraient envie d'y aller. Mais c'est tout ce type de taper sur casser l'assurance chômage, c'est-à-dire faire en sorte que les gens ne puissent plus, ne serait-ce que même survivre, sans on travaille a pour objectif de les obliger à accepter des emplois pourris. Ce qui ne réglera pas le problème du fait qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois pour tout le monde en France aujourd'hui.
Non, mais c'est important que tu le dises, parce oui, qu'à chaque fois, eux, ce qu'ils disent, c'est « oui, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus ». Alors, ils peuvent en plus te raconter n'importe quoi, parce que quand tu regardes les chiffres, c'est dérisoire, le travail qui n'est pas pourvu en l'occurrence, mais c'est la justification qu'ils donnent pour dire « stop, on arrête de rémunérer toutes ces feignasses alors que la France a besoin de main-d'œuvre et qu'ils ne veulent pas y aller ».
Bah nous, on a fait un gros travail justement sur cette question-là des métiers en tension et des offres non pourvues. Donc on a fait des études, plusieurs études sur les offres illégales que vous pouvez retrouver sur le site internet de la CGT Chômeurs. En fait, il s'agissait d'analyser une par une, par territoire, les offres d'emploi qui apparaissaient sur le site de France Travail et qui sert de jauge pour déterminer s'il y a des offres qui sont non pourvues ou pas. Et on les a analysées une par une. Et en fait, on a déterminé, la dernière étude montre que 60% d'entre elles sont des offres illégales. C'est-à-dire que soit inexistantes, soit des doublons, soit qu'elles ne correspondent pas,
au droit du travail.
Au droit du travail, soit ne correspondent. Enfin, l'offre est mensongère, donc le salaire n'est pas, le vrai, etc. Par ailleurs, en fait, ce discours sur les métiers en tension et les offres non pourvues, en fait, il est totalement faux. Une étude de France Travail, de Pôle Emploi à l'époque, qui sont quand même pas spécifiquement des gauchistes, on peut pas dire ça. En février 2022, avait montré que sur toutes les offres qui étaient sur le site de France Travail, seulement 6% n'étaient pas pourvues, et que parmi ces 6%, 3% étaient liés à un abandon de recrutement de la part de l'entreprise qui n'avait plus besoin d'embaucher, donc qui avait enlevé son offre. Et les 3% restants, tout avait reçu des candidatures, mais ces candidatures avaient été refusées pour manque de formation ou manque de motivation de la part du candidat. Donc en fait, ce que prouvait cette étude, c'est qu'en fait, toutes les offres d'emploi qui apparaissent sur le site de France Travail ont toutes reçu des candidatures. Mais que c'est le patronat en fait, qui ne veut pas embaucher les gens qui se présentent. Vous prenez par exemple l'exemple de la ville de Paris. La ville de Paris, il y a 4500 postes vacants à peu près à la ville de Paris. Nous, on a fait un bureau d'embauche avec les syndicats CGT de la ville de Paris en disant « Ok, vous avez 4500 postes vacants, vous dites à vos salariés, aujourd'hui, si vous êtes en sous-effectif, les conditions de travail se dégradent du fait de sous-effectif, c'est qu'en fait, personne ne veut travailler à la ville de Paris. Les gens sont des grosses feignasses, ils ne veulent pas travailler à la ville de Paris parce que les salariés...
Ils se gobergent avec
Ils préfèrent vivre au RSA avec 600 balles par mois. Évidemment, c'est bien connu que tout le monde préfère vivre avec 600 balles par mois. Et en fait, donc, nous, on a fait des bureaux d'embauche et on a reçu, sur une semaine, on a reçu plus de 800 CV. Sur ces 800 CV, seules 80 personnes ont été embauchées. Et en fait, on a fait des études et on a montré qu'en fait, la ville de Paris ne voulait pas embaucher ces personnes-là, qu'en réalité, le discours sur les postes vacants à la ville de Paris, c'était une manière pour la ville de Paris de faire des économies sur la main-d'œuvre, sur la masse salariale, tout en accusant les travailleurs eux-mêmes, les chômeurs eux-mêmes, en fait, c'est-à-dire se dédouanant complètement de la responsabilité là-dedans. Donc ça leur permet de faire travailler plus les agents qui sont en poste avec dégradation inévitable des conditions de travail, une augmentation des burn-out, des maladies professionnelles, etc. Et de l'autre côté, ça leur permet de faire des économies sur la masse salariale. Donc nous, les bureaux d'embauche ont permis elles ont permis de faire embaucher des gens, ce qui est déjà toujours quelque chose de bien, mais elles ont permis de montrer ça, de dire qu'en fait non, aujourd'hui, c'est la ville de Paris qui veut pas embaucher. Et ça, c'est valable en fait pour toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'un des moyens aujourd'hui de réduire les coûts aussi pour les entreprises, c'est d'augmenter la productivité du travail, l'intensité du travail, de faire le boulot de deux personnes par une seule personne.
Partout, ça. Hein, toute manière,
ça, c'est absolument
les
partout.
Les gens qui nous écoutent aujourd'hui savent tout
mais
à fait de quoi on parle.
D'ailleurs, génère une augmentation des accidents de travail et une augmentation des maladies professionnelles qui est assez notable. Là, aujourd'hui, les chiffres des accidents de travail et des maladies professionnelles n'ont jamais été aussi élevés depuis 40 ans. Ça augmente, en flèche, du fait justement de la politique du patronat qui ne veut pas embaucher les gens. Donc là, aujourd'hui, si vous voulez, c'est les réformes de l'assurance chômage qui, depuis 2019, s'enchaînent. Donc on en a pris 3 ou 4 depuis, qui ont baissé le montant des indemnisations, baissé la durée d'indemnisation, qui ont durci les conditions d'ouverture de droits aussi, c'est-à-dire qu'il faut avoir travaillé plus longtemps sur un laps de temps plus réduit pour pouvoir ouvrir des droits, qui sont aussi, une augmentation du contrôle, une réorganisation en fait du travail de France Travail, une augmentation du contrôle du nombre de contrôles de recherche d'emploi extrêmement important. Tout ça a comme objectif de créer finalement une main d'œuvre complètement servile qui, en fait, plutôt que de vivre dans la misère, va accepter n'importe quoi.
Et te mettre, aussi dans un état de stress et d'angoisse, hein, parce que perdre son revenu, surtout quand il est très faible, ça veut dire qu'on n'a pas d'argent de côté. Et si
ah bah c'est zéro quoi.
Si tu le perds, t'es carrément vraiment dans la merde. Et peut-être aussi ça joue sur le fait de pas pouvoir militer, de pas pouvoir sortir plus, rencontrer des gens, s'organiser, réfléchir, etc. Enfin, de maintenir les gens dans une précarité telle et puis un stress tel que ça individualise, ça fait que les gens sont en train de chercher, se démerder comme ils peuvent individuellement, parce qu'ils sont à la gorge, quoi.
Bien sûr, de toute façon, aujourd'hui, vous prenez la plupart des chômeurs quand même aujourd'hui, vous allez devant n'importe quel France Travail, vous demandez aux gens, les gens, ce qu'ils te disent, c'est que c'est la galère. C'est la galère et eux, ils veulent un poste, je veux dire, tout de suite, le plus rapidement possible, et ils sont prêts à prendre n'importe quoi pour ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une... Je veux dire, France Travail est devenu non plus, un service public au service des travailleurs privés d'emploi pour les aider à se réinsérer sur le marché du travail, enfin ce qu'ils appellent se réinsérer sur le marché du travail, à trouver du boulot. Aujourd'hui, France Travail est devenue une instance répressive. Donc, par exemple, on peut parler du RSA contractivité que France Travail a mis en place et qui va être généralisé en 2025. Ça consiste en fait à dire, t'es chômeur, tu vas devoir travailler 15 à 20 heures par semaine, que ce soit des ateliers tout pourris pour apprendre à faire ton CV pour la quatrième fois d'affilée, ou que ce soit carrément de l'immersion en entreprise. Donc en fait, aujourd'hui, France Travail est sur ton dos toute la journée, alors que t'as déjà toutes les emmerdes, consécutives à une perte d'emploi. Enfin, quand tu passes, de 1500 balles à 900 euros par mois, que t'as une famille, que t'as un logement à payer, que ce soit parce que t'as un prêt ou parce que t'as une location, tu perds tout. Aujourd'hui, le chômage, nous, on a des camarades qui nous disent, des jeunes en plus, qui nous disent, moi, j'ose même plus sortir avec mes potes le week-end aller boire un coup, parce que en fait, je ne peux pas payer, et que j'en ai marre que mes vrais amis me payent des coups, parce que je me sens mal, et les autres ne comprennent pas pourquoi je sors plus. Et donc du coup ça a un impact énorme en fait sur la santé. Il y a une étude qui prouve qu'il y a 14 000 morts par an du fait du chômage, donc ça a des impacts sur la santé des chômeurs, sur leur santé physique et sur leur santé mentale, ce qui en plus complique aussi derrière la reprise d'une activité professionnelle après. Aujourd'hui il faut avoir bien conscience, c'est-à-dire que le gouvernement ne cesse de taper sur les chômeurs. Aujourd'hui, c'est vraiment la bête noire, il y a les émigrés et les chômeurs. Il y a deux bêtes noires pour ce gouvernement. C'est une propagande énorme qui dit les chômeurs. Quand je ne sais plus quel ministre avait dit, ils préfèrent vivre du chômage et partir en vacances aux Bahamas. Il y a peut-être que les chômeurs, ultra cadres qui avaient des salaires phénoménaux, qui vont aux Bahamas quand ils sont au chômage. La réalité de la vie des chômeurs aujourd'hui, c'est que toute la journée, ils cherchent de l'emploi. Toute la journée, ils ont France Travail sur le dos qui leur dit, vous cherchez pas assez, vous devriez chercher là-dedans. Toute la journée, ils ont un regard et des pressions extérieures qui peuvent m'amener à des véritables maladies mentales. Vous ajoutez à ça le fait qu'ils n'ont pas d'argent, que la vie...
Tu manges mal,
tu sors plus. Que la vie est une course à comment faire, comment est-ce que je vais faire pour payer mon loyer à la fin du mois? Comment est-ce que je vais faire pour acheter une nouvelle paire de baskets à mon fils? Parce qu'il a des trous dans ses semelles. Comment est-ce que je vais faire pour faire en sorte que mes gamins mangent bien, qu'ils puissent avoir quand même une vie à peu près normale?
Et d'ailleurs, c'est que dans les mouvements, quand il y a des mouvements forts, type gilets jaunes, etc., cette réalité, elle réémerge et qu'on réentend des gens parler de leur quotidien, de leur vie, de la difficulté qu'ils ont à finir les fins de mois, etc. Sans ça, tout ça est complètement nié, balayé, et on nous parle de cassos, de feignants, de gens qui ne veulent pas bosser, qui se gobèrent.
Après, c'est
donc
normal.
C'est une image hyper dégradée, et même des fois, tu peux retrouver même ce discours-là dans le monde du travail, de la part de gens qui n'ont pas des salaires très élevés, mais qui ont l'impression qu'ils travaillent ou qu'ils cotisent pour les feignants. C'est vraiment un discours qui s'est répandu.
Oui, mais c'est une opération de propagande. Quand vous avez, les trois quarts des médias mainstream, les BFM, les CNews et compagnie, qui appartiennent à des multimilliardaires, qui eux-mêmes, en fait, sont les actionnaires des entreprises dont on parle,
qui sont en train de délocaliser. C'est ceux qui nous braquent
donc,
nos thunes.
Si vous voulez, évidemment que le discours, il va dans le sens d'une division, au sein des travailleurs, pour, un travailleur qui gagne, le SMIC, il regardait son voisin qui est au RSA, plutôt qu'il aille regarder son patron, qui, lui, se fait des couilles en or. Et ça, c'est une opération de division, je veux dire, une opération idéologique de division entre les prolétaires, ouais. Et qui marche effectivement très bien. Enfin, je veux dire, c'est la vérité.
D'autant mieux que les voix qui pourraient s'opposer à ce discours-là, elles sont de plus en plus faibles. Parce qu'on a moins d'espace d'expression. Et puis, il n'y a pas de discours qui vient contrecarrer cette...
Pas en tout cas dans les médias mainstream. Pas suffisamment. Ouais. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui en parlent, beaucoup de gens qui le vivent. Après, c'est vrai qu'il y a une chape de plomb sur la question du chômage parce que, oui, on a aujourd'hui créé, dans la tête de beaucoup de gens, l'image du chômeur feignant qui préfère profiter des aides sociales plutôt que d'aller au charbon. Et ça marche, oui, y compris dans les classes populaire, malheureusement, mais tout en ayant eux-mêmes à côté d'eux des gens qui vivent exactement la même chose. Mais c'est le but et ça marche. Enfin, je veux dire, je vais faire une référence absolument horrible. Enfin, je veux dire, Hitler disait vous dites une chose de fausse, vous la répétez 100 fois, elle devient vraie. Enfin, je veux dire, voilà.
C'est exactement ça.
Elle devient vraie dans la tête des gens parce que les gens sont pris par des milliards de problématiques différentes au boulot avec leurs gosses.
Et que c'est plus simple de taper sur un faible que sur le patron. plus faible que soi.
Oui, après, je pense que c'est plus simple. Mais en même temps, c'est aussi parce qu'il faut voir la condition de vie aussi, y compris des travailleurs. Enfin, je veux dire, vous avez 9,1 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté en France. Parmi ces gens-là, il y a des travailleurs. Enfin, d'ailleurs, là, on a décrit tout à l'heure. Je veux dire, aujourd'hui, il y a 6 millions de gens qui n'arrivent pas à vivre uniquement de leur travail, mais qui sont des travailleurs. Enfin, en fait, tous les chômeurs sont des travailleurs. Parce que, quand on parle de 3 millions de chômeurs, c'est pas toujours les mêmes. Enfin, ça tourne. Je veux dire, les gens, ils retrouvent du boulot. Ils sont au chômage 6 mois, ils retrouvent du travail. Donc, en fait, c'est... je veux dire, les gens sont englués dans leurs problématiques individuelles, ils s'en sortent pas. Donc après, c'est aussi évidemment que le patronat et le capital, en règle générale, jouent sur ça. Je veux dire, on vous laisse... Le problème de la misère, c'est que la misère, elle enferme dans une gestion du quotidien. Dans une gestion, c'est comment je vais faire pour manger demain, comment je vais faire pour payer mon électricité. Est-ce qu'on va m'expulser? Et évidemment que du coup, là, ça, le patronat s'en sert pour augmenter l'exploitation. Après, il y a quand même énormément de choses qui se font. Je veux dire, les syndicats parlent de la question du chômage. Il y a beaucoup d'organisations quand même politiques qui parlent de la question du chômage. Ça suffit pas. C'est pas suffisant. Et c'est pour ça que nous, on existe en tant que CGT chômeurs, pour dire, voilà, on met en avant la voix de tous ces gens-là qui sont quand même globalement les grands oubliés et les plus misérables, enfin les plus pauvres, je veux dire ceux qui galèrent le plus. Donc en fait, la partie la plus pauvre de notre classe, de notre classe des travailleurs. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent. Malheureusement, évidemment, je veux dire, sur les attaques qu'on a subies ces dernières années, je veux dire, la résistance...
Ça a été léger, peu de mobilisation,
Après, si vous voulez, quand on vous casse les retraites en même temps, qui là pour le coup touche tout le monde, qu'on vous casse l'hôpital public en même temps, qu'on vous casse la santé, enfin qu'on vous casse l'éducation, le problème c'est que les attaques, elles sont multidirectionnelles, elles sont partout, et que évidemment, spontanément, les travailleurs vont se battre pour ce qui les concerne le plus directement. Et puis, en plus, la difficulté, c'est que, voilà, encore une fois, la figure du chômeur, c'est pas un statut, c'est pas un truc fixe. Enfin, je veux dire, nous, la plupart des camarades qu'on a et qui s'impliquent sur cette question de l'âge du chômage et de la précarité sont précisément des précaires. Donc, ils vont retrouver un emploi.
Un peu de boulot.
Donc, du coup, il y a cette difficulté-là aussi de penser que ce sont les chômeurs qui font se mobiliser sur la question du chômage, c'est faux. D'autant plus que, comme on l'a dit, la question du chômage, elle touche tout le monde. Et elle touche pas seulement tout le monde parce que tout le monde est susceptible d'être au chômage à un moment donné
dans sa vie.
Mais parce que ça tourne, mais c'est surtout parce que aujourd'hui, vous avez. Enfin, c'est simple, dans une entreprise, vous demandez une augmentation à votre patron, le patron,
personne
il va vous dire.
Personne n'est à l'abri,
Le mec, il va vous dire, non, mais tu rigoles ou quoi. Enfin, moi, en tout cas, je ne veux plus donner d'argent. Par contre, si t'es pas content, casse-toi parce que derrière, j'en ai 200 000 qui sont en train de crever la dalle. Et les réformes de l'assurance chômage qui ont cassé quand même, et là il y en a une nouvelle qui vient de sortir, qui casse encore un peu plus le droit à un revenu de remplacement pour perte d'emploi, ont pour but précisément d'avoir ces 200 000 personnes derrière qui vont accepter tout et n'importe quoi, ce qu'on a dit. Donc le chômage est un phénomène collectif. Aujourd'hui, il a des impacts, y compris sur les travailleurs. Et ça, il y a des gens qui le comprennent, il y a des travailleurs qui le comprennent. Mais c'est juste que les modes de mobilisation, nous, par exemple, à l'intérieur de la CGT, on organise avec les organisations professionnelles de la CGT, donc les syndicats d'entreprise, des bureaux d'embauche. Parce qu'eux ont parfaitement compris le mécanisme. de ça. Je veux dire, on y a énormément de solidarité qui se crée. Après, voilà, il faut construire finalement des luttes. Et les luttes, ça se construit. Les luttes, ça se fait pas comme ça. Ça sort pas de n'importe où. Nous, on est des syndicalistes. On fait ça pour se défendre collectivement. On n'est pas des professionnels. C'est pas notre boulot de faire ça. On est des chômeurs qui s'organisons avec d'autres syndicalistes pour régler cette question du chômage. Et on a un certain nombre de revendications, d'ailleurs, qui sont essentiellement quand même le partage du temps de travail, qui sont de dire, bon bah écoutez, je veux dire qu'on fasse un bilan global de combien d'heures on a besoin de travailler en tout le monde, je veux dire, pour pouvoir finalement assurer les besoins collectifs de tout le monde, et on se partage le travail. Après, évidemment, pour le patronat, c'est inacceptable, parce que si on dit, par exemple, passons aux 32 heures ou aux 30 heures, et qu'on dit, par contre, on veut le même salaire pour tout le monde, le patronat, lui, enfin, je veux dire, va pleurer dans les chaumières.
Il pleure déjà pour bien moins que ça, de toute manière.
Il dira, mais moi, je vais être obligé de délocaliser, alors qu'en fait, il délocalise déjà. Ouais. Qu'aujourd'hui, il casse déjà de facto, non seulement l'emploi sur notre territoire, mais en plus les conditions de travail elles-mêmes, avec l'augmentation du recours au travail précaire, même de manière illégale. Parce qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, un CDD, normalement, vous n'avez pas le droit de faire un CDD pour tout et n'importe quoi. C'est très encadré par le droit du travail. Le CDD, c'est remplacement d'un salarié malade ou en âge, un CDD de remplacement, ou alors c'est une augmentation exceptionnelle de l'activité. Sauf qu'aujourd'hui, les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, utilisent le CDD à tout va.
Oui, carrément. Puis même le CDI n'a même plus les mêmes protections. C'est ça,
voilà, les mêmes protections. Depuis les ordonnances Macron, aujourd'hui, on peut casser un CDI comme on veut, sans grand risque.
C'est que ça devient des CDD, quoi.
Mais par ailleurs aussi, et ça, nous, on a fait une grosse étude là-dessus, et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est tous les contrats dérogatoires au droit du travail qui fleurissent. Je veux dire, depuis quelques années. Depuis notamment, les emplois jeunes, les contrats jeunes, les emplois aidés, enfin, toute cette constellation, les contrats d'insertion.
Les apprentissages.
L'apprentissage, les services civiques, les stages, tous ces contrats. Qui sont dérogatoires au droit du travail, donc où les gens n'ont pas les mêmes droits, n'ont pas les mêmes salaires que les salariés en CDI lambda, moyen, quoi, et qui aujourd'hui sont des emplois qui sont de plus en plus, on contraint de plus en plus les privés d'emploi à accepter ce type d'emploi. Aujourd'hui, vous allez à France Travail, on vous propose des contrats d'insertion, qui sont des contrats, vous n'avez pas les mêmes droits qu'un salarié normal. Contrats d'insertion qui, par ailleurs, pour revenir sur la question des exonérations de cotisations sociales, ces contrats aidés, en fait, sont massivement subventionnés par les pouvoirs publics via des exonérations de cotisations sociales. Et en fait, de plus en plus, ces contrats-là, en loose day, quoi, finalement phagocytent dans les entreprises les contrats normaux, parce que évidemment vous êtes vous êtes un patron, on vous dit écoutez, nous c'est France Travail, nous aujourd'hui on est un opérateur public et on est au service du gouvernement, de la politique gouvernementale en termes de gestion du chômage, gouvernement qui lui-même est au service du patronat sur cette question-là,
sur les autres aussi.
Donc moi je suis France Travail, je te dis, moi j'ai deux candidats, j'en ai un qui va exiger un salaire de 2000 euros. Et puis moi, il y a le gars quand même chômeur longue durée, il est dans un dispositif spécifique, on l'a forcé à aller dans un dispositif spécifique. S'il n'accepte pas certains contrats, il sera radié, on va lui couper toutes ses indemnités. Et là, nous, ce qu'on lui a dit, on te le met en contrat d'insertion. Je vais dire, mais c'est tout bénef pour le patronat, bien sûr que tu vas accepter le contrat d'insertion. Et là, avec le RSA contre activité, qui est une des mesures phares de France Travail, ça va être encore même pire. Parce que là, quand on parle de RSA contre activité, qu'on s'entende, eux, ils parlent de RSA contre activité, on va envoyer les gens dans des ateliers d'insertion pour qu'ils apprennent, enlever les freins à l'emploi. C'est-à-dire qu'ils apprennent à bien se comporter, qu'ils sachent faire leur CV, ils sachent chercher de l'emploi, des choses comme ça. Bon, il y a ce pan-là. Ce pan-là qui est une machine à fric, puisque en fait, ils ont tout privatisé. Qu'aujourd'hui, en 2023, c'était 1,6 milliard d'euros qui étaient distribués, pour la sous-traitance des activités d'accompagnement
des
prestataires privés qui vont vous faire des ateliers à la con pour faire encore votre CV 40 fois. D'ailleurs, secteurs où la grande majorité d'entre eux en fait appartiennent à des grosses boîtes d'intérim, intéressant, hein, Manpower, Proman, les grosses boîtes d'intérim françaises qui elles sont en même temps sur cette activité-là et qui, enfin je veux dire, reçoivent mais une masse d'argent de la part de France Travail pour faire ces ateliers à la con. Voilà, je veux dire, faut être sincère.
Alors je vais te dire, là, on va, il y a tellement, tellement de choses à dire. Bah écoute, on se reverra. Hein, mais là, c'est pas terminé. Mais on tenait toutes les deux à garder un petit peu de temps sur la question de la mobilisation, parce que le constat, il est tellement chaud. On se rend compte, je veux dire, et bon, les nouvelles réformes, bah, c'est toujours, de toute manière, c'est la même logique que celle que tu décris depuis le début de cette émission. Mais il y a des résistances et il y a des combats à mener. Et c'est ça aussi, on voulait finir là-dessus, parce qu'il n'est pas question d'aller se pendre demain. Hein. Il est question de descendre dans la rue, de s'organiser, de se rencontrer, de réfléchir et de se battre pour changer ce système, ce monde dans lequel on n'a pas notre place, hein, et où notre place, elle est en train de se rétrécir d'une manière mais étouffante, quoi. Donc vous faites des permanences, tu disais tout à l'heure dans le 18e, il y a eu un certain nombre de mobilisations ces derniers temps. Je voudrais qu'on prenne le temps un tout petit peu d'en parler avant de se quitter pour finir sur une note un peu plus un peu plus péchue.
Bah oui, évidemment, face à toutes ces logiques-là, il y a des résistances. Il y a des résistances un peu partout, et il y a des résistances à l'intérieur, enfin via les syndicats, notamment à l'intérieur de la CGT, qui est le seul syndicat qui syndique et qui organise les chômeurs et les travailleurs précaires de manière plus générale. Donc nous, en fait, on fait des permanences juridiques. Alors ça, c'est une des jambes du syndicalisme, qui est toujours, on va pallier au plus pressé. Quand on a voilà une personne qui nous dit j'ai été radié par France Travail, je sais pas pour quelle raison, pour insuffisance de recherche d'emploi ou absence à un rendez-vous. Nous, on a des activités collectives pour tordre le bras à France Travail et dire bon bah tu annules la radiation et tu assures des paiements rétroactifs. C'est valable pour les trop perçus aussi. Donc ça, c'est tous les vendredis matin de 10h à 13h à l'Union locale CGT. Paris 18e, 42 rue de Clignancourt.
Ok, c'est ouvert, les gens qui nous écoutent, ils ont des problèmes.
Donc ça, c'est pour Paris. Après, des permanences, droit des précaires et droit des chômeurs, il y en a aussi un peu partout en France, puisque, en fait, nous, on fonctionne sous la forme de comités, et on a, je veux dire, une petite centaine de comités en France qui travaillent sur ces questions-là et qui tiennent des permanences juridiques d'aide immédiate entre nous, de solidarité immédiate pour pallier l'urgence. Après, on a des mobilisations. Nous, on est mobilisés, enfin, la CGT chômeurs est mobilisée sur la question du chômage depuis la fin des années 70, avec des grosses mobilisations à la fin des années 90 et au début des années 2000, et des mobilisations qui sont encore en cours actuellement. On s'est battu contre les réformes de 2019, 2022, 2023. Là, aujourd'hui, il y a une nouvelle réforme qui arrive, il y a France Travail qui arrive, qui se généralise 2025. Donc, on a des mobilisations tous les mois. Donc, on organise pratiquement tous les mois des mobilisations décentralisées, c'est-à-dire que tous nos comités partout en France organisent des mobilisations avec les travailleurs, hein, y compris avec le soutien et la solidarité des syndicats professionnels de la CGT. Là, la dernière en date, c'était le 30 octobre, parce que c'est pas encore passé le 30
octobre. Ouais,
ou le 31 octobre, je me souviens plus, où on a eu plus de 35 rassemblements partout en France sur cette mobilisation contre voilà, la casse de l'assurance chômage. Là, on va avoir le 12 décembre, qui va être une journée de mobilisation nationale appelée par la CGT interprofessionnelle, journée de grève interprofessionnelle, dont le cœur est la question de l'emploi et de la protection sociale. Donc nous, on s'inscrit dedans, évidemment, puisque... Mais on s'inscrit évidemment dedans, puisque on aura un gros cortège chômeur dans les manifestations. On aura des cortèges chômeurs dans les manifestations qui auront lieu. Et ensuite, si vous voulez, la mobilisation, de toute façon, elle se fait de manière, de manière solidaire. C'est-à-dire que nous, on est solidaires des camarades qui luttent actuellement contre la fermeture de postes dans leur entreprise. Eux-mêmes sont solidaires de nos luttes. Et c'est en coordonnant, en fait, finalement, toutes nos luttes particulières et en identifiant le point commun entre elles qu'on arrivera à faire des grosses mobilisations. Mais ça suppose aussi que les camarades, eux-mêmes, soient dans une logique offensive. C'est-à-dire de dire, on n'est plus dans une logique de... on se défend uniquement, mais on va se battre pour un modèle de société
carrément,
autre.
Carrément, parce qu'on peut dire que, bon, mis à part le fait de tout foutre en l'air, ce qui pourrait, voilà, mais qui nécessiterait voilà, des forces tout à fait à construire, on va dire, à construire, mais il y a des choses à réclamer immédiatement. Là, toi-même, tout à l'heure, tu parlais de la diminution du temps de travail pour tous. Hein, de manière à bah voilà, laisser la place
à partager,
le travail et puis à faire en sorte aussi, tu parlais des burn-out et des conditions de travail dégueulasses. Aujourd'hui, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, honnêtement, personne se porte bien. C'est une vraie catastrophe.
Enfin, il y en a qui se portent très bien.
Oui, mais bon, ceux-là, ils sont nous, de l'autre côté de la barricade, souvent, hein, la plupart du temps. Mais il y avait aussi, parce qu'on se rend compte que plus ça va, plus on détaxe les dividendes, les hauts salaires, les bénéfices, les machins, tout ça. Et c'est un peu l'enjeu aujourd'hui des réformes. Hein. Et donc, j'imagine que l'idée, c'est d'imposer les dividendes, imposer les hauts salaires, imposer les bénéfices. Et moi, j'avais envie de dire aussi, peut-être même imposer les machines et la numérisation. Parce qu'il n'y a pas de raison que là, par exemple, la mécanisation qui pique du travail ne revienne pas finalement dans les caisses des travailleurs.
Alors, il y a deux temporalités, en fait. C'est-à-dire que, moi, par exemple, sur la question de la machine, bon, enfin, je ne suis pas contre les machines. Si les machines permettent justement de faire en sorte qu'il y ait moins de travail et qu'on ait moins besoin de travailler.
C'est bien, sauf que l'argent
je suis pour dire, bah, écoutez, aujourd'hui, je veux dire, on a des machines, donc du coup, on a besoin de moins de travail humain, bam, baisse du temps de travail.
Oui, ou baisse du temps de travail à salaire égal,
taxation des
machines immédiatement pour renflouer les caisses.
C'est ça, c'est qu'après, il faut voir quel type de mobilisation et quel type de revendications à court, moyen et long terme on peut avoir là-dessus. Nous, en tout cas, à court terme, nos revendications, ce sont les 32 heures, la baisse du temps de travail et la fin des exonérations de cotisations sociales, donc la fin de la baisse réelle de nos salaires et la remise en place d'un vrai salaire socialisé qui permette de renflouer les caisses de la sécurité sociale et de l'UNEDIC, qui est quand même la plus grande invention de ces 100 dernières années en termes d'avancée sociale, la sécurité sociale. Dire à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, et on fait une grosse caisse commune, et on partage ce qu'il y a dedans pour que tout le monde puisse avoir accès aux besoins
la retraite,
de base.
À la santé,
et c'est ça qu'ils sont en train de casser. Cette logique-là.
Évidemment.
Et cette logique-là, il faut que collectivement, on la défende de nouveau. Peut-être sous une forme différente, parce qu'il faut en discuter, il faut construire des projets alternatifs. Mais c'est cette logique-là qu'on veut. C'est-à-dire, on est une collectivité, on a besoin de tous les... On a besoin tous les uns des autres pour pouvoir produire ce dont on a besoin, de la nourriture, des routes, de la santé,
des
éducations,
hôpitaux, des théâtres, des cinémas, des dancing.
Enfin, je veux dire des machines à laver.
Oui.
Et donc du coup, il faut qu'on voit ce que nous on fait de tout ça et comment on le distribue. Et donc je pense que lutter aujourd'hui, mais de manière offensive, pour sauver la sécurité sociale et pour la développer pour d'autres secteurs. Certains parlaient de la sécurité sociale de l'alimentation
ou même de la mort, parce que la question aussi de comment tu finances souvent quand les gens meurent, les gens pas forcément d'argent pour payer.
Oui, ça j'avais pas entendu parler de ça,
ça traîne là en ce moment, mais bon, de prendre en charge collectivement toutes ces questions-là.
En tout cas de se battre contre la casse de ça qui qui va faire de bien à personne et d'avoir un projet.
Mais pour ça, pour qu'il y ait un projet, il faut que l'État arrête d'être décideuse sur comment est orienté l'argent de ces caisses qui nous appartiennent. Peut-être revenir aussi au fait que ce soit les travailleurs eux-mêmes qui les gèrent.
Sauf que, si vous voulez, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que du coup, on oppose paritarisme et étatisme. C'est ce qui se passe avec l'assurance chômage. L'État est venu s'immiscer dans les histoires des caisses d'assurance chômage, alors que ça n'a rien à voir avec l'État. C'est pas du droit public, les caisses de l'assurance chômage. Le truc, c'est qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'inverse et dire on va défendre le paritarisme.
Alors moi je disais tous les travailleurs, là, exemple, pas les patrons. Hein.
Voilà, parce que là vous voyez qu'actuellement justement les dernières attaques contre l'assurance chômage qui viennent d'avoir lieu dans le cadre des nouvelles négociations assurance chômage, c'était dans le cadre du paritarisme et on s'en est pris plein la tronche. Parce que en fait le patronat, lui, enfin je veux dire, est bien déterminé à casser l'assurance chômage.
Vraiment que vu que donc, c'était nos thunes, je pensais que c'était que les travailleurs qui devaient gérer ça.
Mais c'est ça, faut revenir à l'idée même de, je veux dire, de la sécurité sociale qui a pas duré extrêmement longtemps, mais de dire c'est notre argent, c'est du salaire, c'est nous qui le gérons.
Exactement.
Voilà, collectivement. Bah ouais,
carrément. Alors, juste, on va revenir sur les deux dates parce qu'on va se quitter, mais on va se revoir dans pas trop longtemps. Donc, il y avait le 12, tu disais,
bien
le
sûr,
12 décembre.
Interprofessionnel.
Interprofessionnel, manifestation, grève, j'imagine, pour pouvoir aller manifester. Et puis, il y a le 5 aussi pour la fonction publique, parce que ça aussi, ça remplit la cohorte des chômeurs, le fait de diminuer le nombre de fonctionnaires.
De fonctionnaires, bien sûr. Et de précariser aussi les agents de la fonction publique. Évidemment, ça... Il y a une grosse mobilisation, donc le 5 de la fonction publique, qui se bat pour tout un tas de sujets. Hein. D'ailleurs, les 3 jours de carence qu'on cherche à leur imposer, mais en fait, plus généralement, contre la casse de leur statut et la casse du service public en règle générale. Après, en ce moment, il y a des mobilisations tout le temps. Enfin, il y a des luttes partout. Il y a les cheminots qui se sont mis en grève, qui partent en reconductible à partir du 11. Il semblerait que, dans l'énergie aussi, il y a des grèves. Dans l'industrie, il y a des grèves. Dans la chimie, il y a des grèves. Dans la grande distribution, il y a des grèves. Aujourd'hui, il y a des mobilisations véritablement partout. Et moi, j'invite les auditeurs à s'informer sur ce qui se passe autour de chez eux pour aller rejoindre ces mobilisations-là et voir comment ils peuvent organiser la solidarité.
Carrément, t'as raison. Et puis, c'est la meilleure façon de s'informer aussi, d'éviter les BFM et les CNews et toutes les conneries, je peux même dire la télé publique, mais d'aller se déplacer, rencontrer, s'informer au plus proche. Et s'organiser avec, et puis créer des liens,
des ponts.
Exactement. Ouais. Merci beaucoup, Victoire, de la CGT Chômeurs, qui est venue dans nos studios en direct aujourd'hui. On se reverra parce qu'il y a plein de choses à dire et que peut-être aussi que casser cette image, elle passe par justement l'information et parler différemment de ces questions-là. C'est vraiment important. Merci beaucoup.
De rien.
Eh bien, bonne journée, chers auditeurs. Et puis, à demain pour une nouvelle actualité des luttes. Je crois que demain, on parle de l'Ukraine. Et puis que jeudi, on parlera justement du rail. Voilà. À très, très bientôt. Au revoir. Bonne journée.
Bon, je ne vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Vous écoutez l'actualité des luttes
comme tous les jours du lundi au vendredi
de 12h30 à 13h30
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
Et l'actualité des luttes, c'est aussi en rediffusion du lundi au vendredi de 6h30 à 7h30.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedesluttes.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.